Bonjour. Donc, culte spécial, prédication spéciale, et une prédication sur le thème du jour de l'amertume à la joie a été prévue par l'équipe de Portes Ouvertes. Donc, je vais m'en inspirer ici très largement. Alors, comme on l'a déjà dit, c'est vrai que c'est parfois difficile d'imaginer que c'est vraiment réel l'expérience que vivent nos frères et sœurs persécutés pour nous qui vivons dans un pays où dire que nous sommes chrétiens nous expose au pire à quelques moqueries et le plus souvent à une indifférence polie. Pourtant, il y a une expérience que nous partageons tous avec les 360 millions de chrétiens qui aujourd'hui dans le monde sont victimes de discriminations fortes ou de toutes sortes de violences à cause de leur foi. Et cette expérience, c'est celle de la souffrance. Il y a en moi, dans chacun des très beaux témoignages de baptême qu'on a pu entendre, on pouvait se rendre compte que personne n'est vraiment à l'abri de cette souffrance, même quand on a grandi dans un pays libre et dans une famille chrétienne et aimante. Souffrance de la perte d'un être cher, souffrance d'une dépression, d'une maladie. La souffrance fait vraiment partie de notre expérience à tous. Et elle reste un mystère, c'est une des grandes questions ouvertes de l'humanité. Alors, personne ne peut vraiment répondre à la question du pourquoi la souffrance. Mais ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous poser ensemble la question du comment. Quelle attitude adopter face à cette souffrance, que ce soit la mienne ou celle de mes proches? Comment ne pas sombrer dans l'amertume ou le désespoir? Et on verra que sur ce chemin, on peut se laisser aussi guider et vraiment inspirer par quelques témoignages de nos frères et sœurs persécutés. Alors la souffrance, elle est très présente dans la Bible. Très spontanément, on peut penser par exemple au livre de Job. Et le texte qu'a choisi Portes Ouvertes pour aujourd'hui, c'est un psaume, le psaume 13. Et un chrétien persécuté a eu une phrase à propos de ces psaumes que je trouve très juste, que j'avais envie de vous partager. Alors que la plupart des textes bibliques nous parlent, les psaumes parlent pour nous. Ils expriment nos sentiments les plus profonds. Et c'est vrai que parfois, moi ça m'arrive souvent en lisant un psaume, c'est comme un chant ou un poème, j'ai l'impression de trouver exactement les mots qui décrivent ce que je ressens mais que je n'arrivais pas à exprimer. Puis les psaumes décrivent aussi très souvent comme un cheminement, une traversée où on n'est plus tout à fait dans le même état à la fin du psaume qu'au début. Ils expriment en fait cette lente et profonde transformation intérieure que réalise en nous l'Esprit Saint, notamment à travers la prière. Mais il arrive parfois aussi, et c'est aussi mon expérience, qu'un psaume ne nous parle, alors là vraiment pas du tout, qu'on ait l'impression qu'il décrive une expérience ou des émotions qui sont très éloignées de ce qu'on vit ou de ce qu'on a pu vivre. Et dans ce cas, c'est peut-être aussi pour qu'à travers ces psaumes, nous puissions rejoindre les expériences et les sentiments d'autres personnes différentes de nous. Donc les psaumes peuvent nous aider à rejoindre l'expérience de nos frères et sœurs persécutés, mais aussi par exemple d'un proche malade. Et puis Jésus lui-même priait beaucoup à l'aide des psaumes. Et sur la croix, quand il est face à la souffrance la plus atroce et au désarroi le plus profond, son cri est justement celui d'un psaume, le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les psaumes parlent donc à la fois pour nous, pour les autres, et pour notre Dieu d'amour infini, et je fais le lien avec la Sainte Cène qu'on va vivre aujourd'hui, il nous rappelle aussi qu'avec Jésus, nous pouvons passer de la mort à la vie, et puis il chante cette communion, cette danse qui nous unit les uns aux autres et à notre Dieu d'amour infini. Donc le psaume 13, c'est un petit psaume qui fait seulement 6 versets, et qui nous dit vraiment comment cette souffrance peut être traversée. Il va nous donner des clés utiles pour pouvoir exprimer cette souffrance, pour ne pas laisser l'amertume s'installer et pour recevoir la grâce et la joie que notre Dieu nous donne à tout moment. Donc il décrit en fait comme 3 étapes pour passer de l'amertume à la joie. D'abord, oser exprimer notre plainte, Avec cette question, on verra qu'il revient plusieurs fois dans le psaume « Jusqu'à quand ?» Ensuite, nous attendre au secours de Dieu, avec cette demande « Regarde, réponds-moi. » Et puis enfin, trouver notre joie en Dieu et ces très belles paroles qu'on a chantées pour ouvrir ce culte. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Alors, en ce moment, chacun s'identifie peut-être un peu plus à une ou l'autre de ces étapes. Peut-être que tu ressens de la souffrance et que toi aussi, tu as envie de crier « Jusqu'à quand ?» Ou alors tu te sens plutôt dans une période d'attente ou d'impatience, où tu ressens déjà peut-être de la joie dans ton cœur. Je vous propose, avant de découvrir ensemble ce psaume 13, de confier au Seigneur cette traversée. Seigneur, oui, tu connais le cœur de chacun. Tu sais ce que chacun porte en ce moment et je voudrais te confier vraiment tout particulièrement ceux et celles parmi nous qui peuvent ressentir de la souffrance. Oui, Seigneur, toi, tu connais mieux que personne cette traversée de la souffrance à la joie, de la mort à la vie. Alors viens vraiment nous accompagner, viens dans nos cœurs, prends-nous par la main pour que nous puissions maintenant traverser avec toi. Amen. Alors, pour commencer à nous approprier ce psaume 13, je vous propose tout d'abord, comme on l'a fait la semaine dernière, pour tous ceux qui le peuvent, de vous lever. Et on va lire ensemble, tous ensemble, ce psaume à haute voix, en faisant déjà bien attention aux paroles et à comment déjà qu'est-ce qui résonne en nous et en prenant le temps de le découvrir ensemble. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi. Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire « Je l'ai vaincu » et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le psaume 13 commence par quatre plaintes, des plaintes fortes, honnêtes, qui montrent que Dieu peut vraiment accueillir toutes nos plaintes sans aucune censure. On peut y aller franchement. Il nous invite, comme David dans ce psaume, à nommer clairement notre souffrance, sans avoir même peur d'être parfois un peu excessif. Alors c'est une étape qu'on a parfois envie de passer, peut-être pour sauver les apparences ou pour coller à cette image qu'on peut avoir de bons chrétiens qui ne se plaint pas. On peut aussi avoir tendance à comparer notre souffrance à celle des autres, par exemple celle des chrétiens persécutés, et à la minimiser. Ou au contraire, être face à une souffrance qui est si profonde, si intime ou si différente, qu'on peut avoir l'impression qu'elle ne peut pas être rejointe. La Maison de la Bible nous propose en ce moment, dans ses nouveautés, un livre qui s'intitule « Stop aux faux semblants, ose dire à Dieu quand ça va mal ». Et c'est vraiment exactement ce à quoi nous invite ce début du psaume 13, « Ose dire à Dieu quand ça va mal ». Ne te plains pas de lui, mais plains-toi à lui. Tue-toi celui qui s'est fait tout proche de toi, qui a donné sa vie pour toi, car il n'y a rien qu'il ne puisse entendre et comprendre. Ouvrir notre cœur, exprimer nos émotions sont des choses essentielles pour bâtir une relation de confiance, que ce soit avec notre famille, nos amis et bien sûr en Église. Alors pourquoi il en serait autrement avec notre Dieu? Comme David, Nous pouvons aussi identifier et reconnaître nos sentiments avec lucidité devant notre Dieu d'amour infini, toujours prêt à nous écouter, lui qui connaît nos mots avant même que nous les prononcions. Alors, dans les deux premières plaintes, David va exprimer le sentiment d'être abandonné et oublié de Dieu, et puis celui d'être rejeté par lui, privé de son amour. Ce sont des sentiments que m'a exprimé il y a peu une amie, Patricia, qui se bat contre un cancer quand elle a appris que ses métastases avaient repris. Après une période plus calme, et son cri a alors été « Mais Dieu ne m'aime pas ou quoi ?» À ce moment-là, il aurait été bien sûr maladroit et presque violent de ma part de lui faire une réponse très rapide du type « Mais si, Dieu t'aime !» La souffrance n'est pas un problème qui a besoin d'une solution, mais un mystère qui appelle une présence. Une présence le plus souvent impuissante. Face à un ami qui souffre, je ne peux que me tenir là, en silence. Entendre sa plainte, telle qu'elle vient, et puis l'inviter à l'apporter à Dieu. Les chrétiens persécutés expriment aussi, souvent avec une grande honnêteté, ce sentiment d'être abandonné, et c'est le cas, on a parlé tout à l'heure déjà du Burkina Faso, du jeune Traoré, donc qui est burkinabé, et qui était avec son père lorsque celui-ci s'est fait assassiner. Et voici ce qu'il a dit. « J'ai parfois l'impression que Dieu m'a abandonné, mais quand je lis la Bible, je me rends compte qu'il est avec moi, depuis le début. Je pensais que Dieu ne se souciait pas de moi, mais il m'a soutenu durant ma souffrance. » Alors j'imagine qu'on peut tous se reconnaître dans la troisième plainte de David qui évoque ce poids des soucis et des chagrins dans notre cœur, dans notre âme, parfois jour après jour. Et puis la quatrième plainte qui évoque cette peur qu'on peut avoir qu'on s'attaque à nous, cette peur d'être critiqué, méprisé par les autres. Quatre jusqu'à quand ? Qui montre qu'on peut vraiment aller jusqu'au bout de notre plainte avec Dieu. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Eti Lezoum. C'était une personne qui savait très bien ce que signifiait la souffrance puisqu'elle était juive pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'elle a terminé sa vie en camp de concentration. Et Eti Lezoum invitait ses contemporains à regarder la souffrance au fond des yeux. C'est une étape vraiment importante. Prendre le temps qu'il faut pour dire ma souffrance à Dieu, dans toute sa complexité, parfois laisser couler les larmes, permet d'éviter que cette souffrance ne s'infecte et ne devienne amertume. Alors après avoir été jusqu'au bout de sa plainte, David va entrer dans une deuxième phase, une phase plus active qui est celle de la demande. Ce qu'il recherche avant tout, c'est la présence et l'attention de son Dieu. Et en fait, on peut presque l'entendre crier comme un petit enfant à son papa « Regarde, réponds-moi !» En danger face à la souffrance, ce serait de rester seul, de croire qu'on va pouvoir s'en sortir par nos propres moyens. Au contraire, exprimer notre souffrance dans la prière nous permet de rencontrer un Dieu vivant, présent, actif. Dans nos vies, nous pouvons nous attendre à son secours. Pas forcément comme nous l'imaginons, souvent d'ailleurs de façon bien surprenante. Et on le verra tout à l'heure dans la vidéo d'Ayuba au Nigeria, mais je vous en dis juste quelques mots. En fait, Ayuba, son père s'est fait décapiter par Boko Haram au Nigeria, et il a appris qu'un homme du village avait aidé Boko Haram. Et donc, au départ, il pensait qu'il allait trouver le secours dans le fait d'emmener partout avec lui son couteau pour pouvoir venger la mort de son père s'il rencontrait cet homme. Mais pour finir, il a dû déménager assez loin de son village et il a été soigné dans un centre de soins post-traumatiques de partenaires de Portes Ouvertes. Et il y a eu tout un chemin. Il a pour finir trouvé la guérison en Dieu et dans le fait de pouvoir laisser tomber sa colère et être en paix. David demande aussi à Dieu de donner la lumière à ses yeux. Les yeux dans la Bible sont souvent le reflet de l'âme, de l'être intérieur, et même parfois de toute l'action humaine. Quand on change notre regard sur les choses, quelque chose change dans toute notre vie. Demander à Dieu d'éclairer notre souffrance de sa lumière bienveillante, c'est d'abord reconnaître que notre perspective humaine est limitée, et puis peu à peu, discerner la main de Dieu à l'œuvre, dans l'obscurité des épreuves que nous traversons. Nathalie, une amie de Rebecca, que j'ai eu la chance de rencontrer ici au mois d'août et qui souffre d'une grave sclérodermie systémique, m'a écrit quelques mots qui m'ont vraiment touchée et qu'elle a accepté que je partage avec vous juste avant de passer en examen oral qu'elle préparait depuis longtemps malgré sa maladie qui la mettait dans un état de grande faiblesse. Voilà ce qu'elle m'a écrit. Ce matin, mes mains me brûlent à cause des plaies et ulcérations. Mais je suis reconnaissante, car une amie a pris congé pour m'emmener à l'oral et venir me rechercher. À la fois, exprimer la souffrance telle qu'elle est, la regarder au fond des yeux, et puis par le long travail de la gratitude, discerner la main bienveillante de Dieu dans ma vie, souvent d'ailleurs à travers mes frères et sœurs, comme un phare qui me guide dans la nuit, et qui m'empêche de laisser ma souffrance me vaincre ou m'ébranler et de sombrer dans le sommeil de la mort. Le terme hébreu qui est employé pour adversaire peut désigner aussi l'angoisse, la détresse, le fait de se sentir à l'étroit. Il s'agit de ne pas me laisser couler dans les eaux troubles du désespoir. Ou dans ce cas, Awel, c'est un chrétien éthiopien qui a été emprisonné et torturé pendant 15 ans. Lui, il a appelé ça l'étang de la déception. Alors, Eti et les Zoom, alors qu'elle sentait, elle aussi, ce risque très fort de se noyer, a fait cette extraordinaire déclaration, qui serait d'ailleurs un superbe verset de psaume. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. » Entretenir cette lumière intérieure, cette petite flamme, j'allais dire comme sur les bougies de l'avant, il n'y a pas encore de flamme, mais on imagine, et garder nos yeux rivés sur le phare, même si on avance à tâtons et parfois à reculons, et puis découvrir un jour qu'on est passé sur l'autre rive. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Voilà ce qu'affirme David au terme de sa traversée. Le mot hébreu qui est employé ici pour confiance implique une idée de sûreté, de sécurité, de solidité. Une autre traduction de cette phrase serait « Moi, je suis sûre de ton amour ». Le phare dans la nuit est ici devenu une ancre solide sur laquelle peut reposer toute ma vie. L'amour de Dieu, sa bonté, sa fidélité. David ajoute qu'il a de la joie dans le cœur. La souffrance n'a pas disparu, les circonstances n'ont peut-être même pas changé, mais quelque chose a eu lieu à l'intérieur. Et j'ai rejoint cette joie qui ne dépend pas des circonstances, cette joie que je peux trouver à tout moment en Dieu et qui peut même exister au cœur de la souffrance. Qui compte réellement, ce qui donne toute leur valeur à nos vies et qui peut nous aider à traverser la souffrance pour rejoindre cette joie, c'est cette certitude de l'amour de notre Dieu. Notre Dieu qui nous invite, nous aussi, à l'aimer, à nous aimer et à aimer notre prochain, nos frères et sœurs, où qu'ils soient dans le monde. Je crois que c'est en nous encourageant les uns les autres, en priant les uns pour les autres et les uns avec les autres, que nous pouvons retrouver ce chemin de la grâce de Dieu, vécu par Jésus-Christ, jusque sur la croix. Jésus qui a été humilié, violenté, abandonné, peut nous comprendre par ses propres souffrances. Il est le seul capable de nous relever et de nous offrir une joie profonde, entière et indépendante des circonstances. Une joie qui est réponse à ce salut qu'il nous donne, et qu'il jaillit en nous comme un chant. Awel, le chrétien éthiopien emprisonné pendant 15 ans, dont je parlais tout à l'heure, qui avait eu cette expression « les temps de la déception », a dit aussi ceci. « Quand je suis persécuté, je me dis que cela vient de Dieu. Et quand Dieu me délivre, cela aussi vient de lui. Dieu est bon en toutes choses. Donc, quand la persécution vient, je chante. Et quand Dieu me délivre, je chante aussi. J'ai un chant pour chaque circonstance. Et toi, quel est le chant par lequel tu aimes adresser au Seigneur ta louange dans les moments heureux comme les moments douloureux? Il y a en moi chacun des baptisés nous a partagé ce chant, juste avant d'être plongé dans l'eau, un symbole aussi de la souffrance et de la mort, pour en ressortir, éclaboussé de la joie et de la vie de Dieu. Et puisqu'en psaume, c'est avant tout un chant, c'est un texte qui à la base est écrit spécialement pour être chanté, je vous propose pour terminer de revivre ensemble cette traversée avec une vidéo qui nous présente une version chantée de ce psaume 13. Alors, sentez-vous libre de la vivre vraiment comme vous voulez. Vous pouvez vous lever et chanter. Les paroles s'afficheront aussi à l'écran. Taper dans les mains, danser ou rester assis à votre place. Pourquoi pas fermer les yeux. Oui, Seigneur, nous te confions toutes nos souffrances, quelles qu'elles soient. Merci d'être ce phare qui nous éclaire dans la nuit, cette encre d'amour solide dans nos vies. Oui, éternel, nous voulons chanter en ton honneur, car tu nous as fait du bien. Amen.